Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dans tous les sens. Vous écoutez 6ème Science. Eh oh, y a quelqu'un ? Peine perdue. Dans l'immense villa qu'est l'univers, la seule pièce où brille la lumière de l'intelligence, c'est pour l'instant celle de la Terre. Notez les pincettes prises avec le « pour l'instant ». On n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais aucun élément ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'une autre civilisation que la nôtre peuple les galaxies et surtout qu'elle nous a payé une petite visite. Peut-être, la NASA me contredira-t-elle, l'agence spatiale américaine a en effet hérité d'une nouvelle mission. Enquêter sur les ovnis. Et ce ne sont pas les témoignages qui manquent. Alors, dans l'écrasante majorité des cas, les signalements trouvent une explication toute simple. Avec dans le top 3 des « Oups, je m'ai trompé », le ballon météo, l'avion, une étoile, quand ce n'est pas carrément une planète qu'on a confondue avec un vaisseau venu d'ailleurs. Et il y a les 3% restants. Certains phénomènes anormaux non identifiés demeurent non identifiés. Mais avec les ressources et les équipements de pointe à sa disposition, la NASA pourrait bien éliminer ces quelques récalcitrants ou faire peut-être une incroyable découverte. On va voir ce qu'il en est avec Franck Daninos, l'expert en sciences fondamentales de Sciences et Avenir. Bonjour Franck.
Bonjour.
Bienvenue dans ce que j'appelle un OPNI, un objet podcastique non identifié. Welcome on board. Sommes-nous seuls dans l'immensité froide et quasi infini de l'univers. Bon, je suis pas de ceux qui se posent la question à chaque fois qu'ils lèvent les yeux vers le ciel, mais je m'étais jamais demandé si des chercheurs ou l'armée s'intéressaient à ce sujet au quotidien. Et toi, tout simplement, est-ce que tu te poses ce genre de questions ?
Alors oui, c'est une question fascinante et qui me fascine moi-même depuis longtemps, qui nous interroge effectivement sur notre place dans le cosmos, notre spécificité. Et qui est du reste une question très ancienne, donc qui taraude l'humanité depuis des millénaires. Les penseurs, les philosophes, les théologiens. Je vais vous la faire un peu courte. Il y a grosso modo deux types de réponses. Et je me suis aperçu, dans ma modeste carrière de journaliste scientifique, qu'il y avait régulièrement un mouvement de va-et-vient, de balancier, entre ces deux types de réponses. La première, c'est celle des optimistes. Considérant qu'il y a à peu près 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie et qu'il y a à peu près 100 milliards de galaxies dans l'univers, eh bien, statistiquement, ce serait faire preuve de peu de modestie que de considérer que ce qui s'est passé ici ne pourrait pas se passer ailleurs et que, en fait, il y aurait de ce fait une multiplicité de mondes avec une multitude de formes de vie possibles et imaginables. Ça, c'est pour la version optimiste des choses. Mais il y a aussi la version pessimiste et qui, effectivement, gagne un peu de terrain ces dernières années. Elle tend à considérer que oui, il y a l'univers est extrêmement vaste, infini, avec une multitude de mondes, mais que chacun de ces mondes est unique et que la Terre, comme tous les autres mondes, elle aussi serait unique et que, de ce fait, la vie pourrait être une propriété particulière de la Terre. En conséquence, nous pourrions être seuls dans l'univers.
Seul tout.
Voilà.
Ça, c'est un peu triste.
Le fait est qu'on n'en sait absolument rien et que les deux types de réponses sont tout aussi valables. Donc, work in progress.
En parlant de work in progress, ton article s'ouvre sur une observation qui n'est pas encore résolue. Plusieurs pilotes d'avions de chasse auraient observé un phénomène. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'ils ont rapporté ?
Oui. Alors, dans cet article, je développe un phénomène, une observation, parce que je n'avais pas la place de toutes les détailler, mais pour être plus complet, il y a trois types de témoignages qui concernent des observations qui ont été faites en 2004, en 2014 et en 2015. À chaque fois, par des pilotes de chasse américains, en particulier de l'US Navy, donc qui, en 2004, en 2014 et en 2015, ont vu effectivement des objets qui leur ont paru extrêmement étranges. Pourquoi étranges ? Parce qu'ils se déplaçaient de manière extrêmement rapide. Parfois, ils ralentissaient soudainement, puis accéléraient à nouveau. alors que aucune aile, aucune queue, aucun système de propulsion n'était apparent. Et donc les pilotes ont fait part de ce sentiment de grande surprise en disant que ces objets semblaient se déplacer, mais d'une manière qui semblait impossible pour un équipage humain. Et donc, effectivement, c'est ce qui a alimenté énormément de curiosité depuis quelques années aux États-Unis.
Oui, parce qu'en plus d'être tenu par plusieurs membres à plusieurs années d'écart, donc plusieurs membres de l'armée, c'est dire ces observations visuelles ont été corroborées par des caméras infrarouges.
Alors, effectivement, il faut souligner que les personnes qui ont fait ces témoignages, donc ce sont des pilotes de chasse. A priori, donc, ce sont des personnes qui ont passé expérimentées, une valeur, des compétences, qui sont de bonne foi. Et en plus, effectivement, ces témoignages donc, s'appuient sur des films, sur des vidéos qui montrent ces fameux objets étranges. Donc, je précise que l'un d'eux, c'était des objets un peu brillants. L'un d'eux ressemble à une sphère qui enveloppe un cube. Et donc, on les voit dans les caméras... dans les films, pardon, qui sont pris par les avions et depuis aussi le cockpit de l'avion. Mais, chose très importante, ces images, ces vidéos donc, montrent des objets extrêmement pixelisés, des choses très floues. En clair, elles n'ont pas grand-chose.
Ouais, on voit rien, on peut le dire, parce qu'il y a une capture qui est imprimée dans le numéro de Science et Avenir. Et on voit vraiment pas grand-chose.
En fait, je vous invite à vous faire une idée, hein, aller sur Internet. On peut trouver facilement donc, ces trois films dont j'ai parlé, donc 2004, 2014, 2015. Ils ont chacun d'ailleurs un surnom, on ne me rappelle plus maintenant, mais bon, on les trouve facilement sur Internet. Et faites-vous une idée, regardez-les. Vous verrez, effectivement, ça semble assez bizarre, mais bon, on ne peut pas effectivement en dire grand-chose.
Mais l'US Navy, elle n'a pas communiqué directement dessus. Il y a eu des révélations, et là, c'est plutôt la presse qui a joué son rôle. C'est vrai que l'armée, généralement, c'est plutôt ce genre d'observation, elle les garde secrètes.
Oui, tout a commencé par des révélations qui sont sorties dans la presse en 2017. Donc c'est le New York Times qui publie une série d'articles qui révèlent deux choses. D'une part, donc, l'existence de ces témoignages, de ces vidéos. Donc c'est à ce moment-là qu'en 2017 que le grand public donc, prend connaissance de ce témoignage très surprenant. Et d'autre part, le New York Times révèle que le Pentagone continue à étudier les ovnis, à s'intéresser à ce sujet, notamment en ayant créé une structure secrète donc qui s'intéresse spécifiquement à ce sujet. Et donc ça se passe en 2017. Effectivement, ça a eu un énorme retentissement aux États-Unis. Le Pentagone a été forcé de confirmer donc les révélations...
C'est l'état-major, le Pentagone, c'est ça, hein, l'état-major des armées
Voilà, le Pentagone, c'est le...
ministère de la Défense.
Absolument, c'est l'équivalent aux États-Unis du ministère de la Défense français. Donc le Pentagone, qui s'est fendu de plusieurs déclarations en disant oui, effectivement, ces vidéos, ces témoignages sont authentiques, précisant que des nouvelles structures, des nouvelles commissions, en fait, allaient être créées pour essayer d'en savoir plus. Cette fois-ci, de manière publique, donc, et non pas secrète. Et tout ça, ça a eu énormément de conséquences donc aux États-Unis, notamment en fait une recrudescence énorme de signalements d'OVNI. C'est-à-dire que face à ces révélations, on a assisté notamment en 2020 et 2021 à une multiplication donc de personnes.
De signalements.
Voilà, donc il y en a eu, pour citer quelques chiffres, entre 2021 et 2022, il y en a eu quasiment 250. Et 250, c'était le même chiffre de signalements qu'il y avait eu lors des 20 dernières années. Donc on voit effectivement, tout d'un coup, il y a ce pic de signalements de personnes qui disent avoir vu des objets extrêmement étranges.
Et qu'est-ce qui a décidé le gouvernement à ensuite refiler le bébé à la NASA, qui est l'agence spatiale?
Plusieurs raisons à ça. Donc déjà, je rappelle effectivement cette ambiance et ce contexte très particulier. Donc le Pentagone qui est forcé d'expliquer qu'il y a effectivement tous ces témoignages, la création d'une structure qui était restée secrète jusqu'à présent, le Congrès s'en mêle, beaucoup de déclarations de politique, toute cette vague de signalement d'OVNI. Et donc, il fallait réagir. D'où cette décision des autorités américaines d'impliquer, donc ça s'est passé en 2022, d'impliquer donc la NASA dans l'étude des ovnis. L'idée, c'était d'essayer de faire sortir ce sujet qui, pendant des décennies aux États-Unis, était géré principalement par les militaires, c'est-à-dire de confier en fait l'étude des ovnis à une structure civile, comme la NASA, qui a une très bonne image, une image de sérieux. C'est l'agence spatiale la plus célèbre au monde. C'est aussi celle, effectivement, qui travaille avec des méthodes scientifiques et qui, effectivement, pourrait apporter ce contrepoint par rapport à toutes ces théories concernant, effectivement, des activités secrètes, des choses qu'on nous cacherait concernant les petits hommes verts et ce type de phénomène, en disant non, là, on a une agence scientifique extrêmement sérieuse qui va se pencher sur le sujet en l'étudiant de manière scientifique.
Ouais, et là, on se rappelle tous de Roswell ou de la zone 51, source de tant de théories et de complots divers.
On ne compte pas les séries, les films, d'ailleurs moi-même qui m'ont beaucoup influencé dans les années 90, hein, je pense à X-Files évidemment, et qui ont nourri tout cet imaginaire concernant les ovnis et des incursions extraterrestres.
Et on change d'ailleurs de vocabulaire, puisque dans ton dossier, il est moins question d'OVNI que de phénomène paranormal non identifié. Or, en anglais, c'est Unidentified Anomalous Phenomena, c'est abrégé UAP. Pourquoi ce changement de lexique ?
Effectivement, le Pentagone a décidé il y a quelques années de changer de terminologie, de ne plus parler d'objets volants non identifiés. Parce que, en fait, ce terme était extrêmement connoté.
Et galvaudé. Ouais.
Voilà, depuis des dizaines d'années, il était associé aux ovnis, aux extraterrestres, aux témoignages un peu loufoques et complotistes. Et donc, l'idée, avec ce nouveau terme, de se dire, bon, ben, on peut traiter tout ça sans préjugés, sans imaginer forcément qu'il y a des extraterrestres derrière. D'ailleurs, dans cette nouvelle terminologie du Pentagone, on ne considère pas seulement les objets volants, mais aussi des phénomènes anormaux, non identifiés, non expliqués, qui pourraient se produire à la surface de la Terre et même dans la mer, donc sous les eaux. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer
d'élargir le spectre.
Voilà, d'élargir et de se départir un peu de cette connotation très négative. Parce qu'on sait aussi que les personnes qui font des témoignages d'OVNI sont très stigmatisées. Mmh. On les prend pour des fous. Alors qu'il y aurait peut-être un intérêt, effectivement, à les entendre, à écouter ce qu'ils ont à dire. Peut-être qu'il y a des choses derrière qui seraient très intéressantes. Et il ne faut surtout pas qu'ils s'empêchent, de peur de se couvrir de ridicule, d'exprimer leur témoignage.
Oui, d'ailleurs, dans plus de 95% des cas, je le disais, hein, on trouve une explication très rationnelle aux observations et autres signalements. Est-ce que tu peux peut-être nous donner les principales sources de confusion ?
La palette de phénomènes et d'explications est extrêmement variée. Donc souvent, on a affaire à des illusions d'optique, comme tu le disais en introduction. Il s'agit aussi de phénomènes astronomiques, de phénomènes météorologiques. Donc ça peut être des planètes, ça peut être une couverture nuageuse particulière. Ça peut être un bolide qui rentre dans l'atmosphère et qui va produire des phénomènes lumineux. Il y a aussi les satellites, et en particulier les constellations de satellites, donc qui se développent beaucoup ces dernières années. Les avions, les ballons, les montgolfières, etc., qui pourraient produire des reflets particuliers dans des conditions spécifiques et qui pourraient donc produire ce sentiment d'étrange, d'inexpliqué. Un dernier exemple, il y a les drones qui se développent eux aussi énormément ces dernières années. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les drones, ce n'est pas forcément petit objet, quadricoptère, donc on a tous en tête et qui sont vendus dans les supermarchés. Mais bon, il peut y avoir tout un tas de formes et de types de drones construits quelquefois de manière artisanale et qui ne sont pas facilement reconnaissables et qui peuvent justement susciter des ambiguïtés, des confusions. Donc ça aussi, ça alimente énormément les nouveaux témoignages d'OVNI. Je précise un dernier point, c'est plus de l'ordre des phénomènes. Ce qu'on constate après enquête et explication, c'est que ce qui nous paraît étrange, et souvent en fait les témoins évoquent des vitesses prodigieuses, des vitesses potentiellement non humaines. C'est souvent les distances qui sont mal appréciées et du coup le calcul des vitesses, ce qui peut donner l'impression dans des circonstances particulières que des objets peuvent filer à des vitesses spectaculaires, alors que en fait, c'est juste une perception qui est trompeuse.
Est-ce que tu connais, tu disais que la NASA s'est emparée du sujet qu'en 2022, peut-être les premières conclusions des différents tris qu'elle a pu opérer par rapport aux observations qui lui ont été rapportées. Est-ce qu'elle nous dit s'il y a des petits hommes verts ou pas ?
Alors, tout d'abord, je précise que...
La question est simple, Franck, c'est oui ou non ?
Non. Je voulais préciser que les travaux de la NASA commencent seulement maintenant. Mmh. Donc, il n'y a pas encore de conclusion sur tous ces signalements qui vont être analysés, épluchés un par un. Donc, en fait, la décision d'impliquer la NASA a été prise en 2022. À l'automne 2023, il y a un panel d'experts indépendants. Il y avait quelques personnes de la NASA dedans, mais c'était des gens qui étaient extérieurs à la NASA qui ont rendu un certain nombre de conclusions, de recommandations, en fait, sur la manière dont la NASA devrait opérer. Et donc, voilà, le travail commence maintenant. Par contre, effectivement, il y a quelques mois, donc au moment où ce panel a rendu donc ses recommandations, il y a le patron de la NASA qui a voulu préciser que non, jusqu'à présent, aucun élément, aucune information à la disposition des autorités américaines et de la NASA en particulier n'allait dans le sens de l'existence d'une visite, d'une incursion extraterrestre.
Oui, c'est une disposition et une approche très scientifique qui est peut-être un peu à l'opposé de celle de l'armée qui a investi des sommes conséquentes sur tout le XXe siècle, notamment à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, enfin deuxième partie du XXe siècle, et qui ouvrait la porte, qui était un peu plus ouverte à l'idée que potentiellement des petits hommes verts pourraient débarquer sur Terre.
Alors c'est vrai que pour la NASA et pour les scientifiques de manière générale, c'est pas un sujet qui est forcément considéré comme très intéressant. D'ailleurs, j'ai pas pu le rapporter dans mon article, j'ai appris que au début de la présidence de Carter, donc ce dernier, qui avait lui-même, quelques années auparavant, vu un objet volant non identifié, avait demandé à la NASA de travailler sur ces ovnis. Et qu'est-ce que répond la NASA ? Non.
Pas envie.
Effectivement, c'est pas notre job. Nous, on est des scientifiques et c'est un sujet qui n'a pas vraiment d'intérêt scientifique. Donc, c'est pour montrer un peu l'état d'esprit qui a prévalu pendant des dizaines d'années. Alors que, effectivement, pour les militaires et pour le Pentagone, le point de vue est très différent. Les militaires se sont tout de suite intéressés au phénomène OVNI, qui démarre, je le rappelle, au milieu du XXe siècle, donc précisément en 1947, suite à un témoignage d'un pilote amateur qui a suscité énormément de curiosité et qui a entraîné beaucoup d'autres témoignages aux États-Unis, et dans le monde entier. Donc en fait, le mythe et le phénomène OVNI commencent à ce moment-là. Et les militaires s'en sont très vite préoccupés. En fait, ils ont longtemps tergiversé. Ils ne savaient pas vraiment comment aborder en fait ce problème. Un certain nombre se disaient, attention, tous ces gens qui voient donc ces objets bizarres, ça pourrait correspondre à une nouvelle technologie ennemie. Il faut se rappeler qu'on est au tout début de la guerre froide. Donc il y avait ce souci que ce serait peut-être effectivement une arme secrète. Donc il faut savoir exactement ce qu'il en est. Une autre source de préoccupation, c'était que toute cette flambée de témoignages pourrait saturer en fait les communications intergouvernementales et en cas d'attaque soviétique, ça pourrait être une catastrophe. Ça pourrait entraîner une surprise stratégique, donc il faut qu'on fasse vraiment attention à ça. Mais il y a eu aussi, les historiens l'ont découvert par la suite, en étudiant les documents secrets de l'époque, dès la fin des années 40, on sait qu'il y a un certain nombre de militaires qui vont se convaincre que les ovnis pourraient correspondre au signe d'une incursion, d'une visite extraterrestre. Donc en fait, ils sont passés successivement d'une hypothèse à l'autre. Et en fait, on peut d'ailleurs dire qu'aujourd'hui, c'est un peu toujours pareil. Ils ne savent pas quoi faire avec tous ces témoignages de pilotes qui sont récurrents et qui suscitent quand même un embarras important.
Et les scientifiques, qu'en est-il ? On les imagine moins aux aguets, hein, moins intéressés par ces potentielles invasions venues d'en haut. Dans quelles dispositions abordaient-ils ces phénomènes inexpliqués ? Expliquer.
Alors, je précise tout d'abord que, attention, le Pentagone n'a pas abandonné donc l'étude des UAP. C'est pas parce que la NASA va s'en charger aussi que les militaires lâchent l'affaire là-dessus. D'ailleurs, il y a de nouvelles structures. Il y a même un site là qui a été créé il y a quelques mois. Le Pentagone a créé un site internet où donc les personnes peuvent déposer des témoignages, des documents. Donc voilà. Donc ça continue à être étudié par les militaires. Après, la NASA dispose de moyens puissants, très particuliers. Et donc, l'idée, c'est de mettre à disposition donc, de l'étude des ovnis ce type d'instruments très perfectionnés dont la NASA dispose. En particulier, il s'agit de télescopes, donc toute cette batterie de télescopes au sol, extrêmement puissants, performants, mais aussi tous ces satellites, et qui va pouvoir effectivement enrichir et on espère faire avancer l'étude des ovnis. L'idée, c'est d'apporter en fait davantage de données, de mieux caractériser des épisodes, des témoignages, des observations. Quand on a, par exemple, une personne ou un pilote, on a parlé de ces pilotes de chasse, qui voit à un certain endroit, à un certain moment, quelque chose d'extrêmement étrange, c'est de dire, à ce moment-là, où, si on remonte dans les archives, est-ce qu'on peut retrouver par les satellites et par les télescopes des informations qui permettraient de caractériser plus finement, effectivement, le phénomène au niveau céleste, au niveau atmosphérique, météorologique, etc. Et donc, l'idée, comme ça, c'est de pouvoir mieux cataloguer, mieux caractériser tous ces signalements qui ont été répertoriés ces dernières années et de voir si, finalement, est-ce qu'on peut tous apporter une explication scientifique, rationnelle, ou est-ce qu'il y en a encore certains qui échappent à cet effort d'analyse et d'investigation.
Pour terminer, la vraie surprise, elle a débarqué comme un ovni dans ton papier, c'est l'évocation du JPAN. En gros, l'institution chargée de trier les ovnis français, une cellule fondée dès 1977 par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Que peux-tu nous en dire ?
Donc on parle effectivement du JPAN. Donc c'est une structure très ancienne, 1977 tu le rappelais, c'est une petite structure. Il y a 4-5 personnes présentes en permanence, mais qui s'appuient sur plusieurs dizaines d'experts et d'enquêteurs et qui peut aussi solliciter tout un tas d'institutions, d'organismes français comme la Gendarmerie nationale, comme la Sécurité aérienne, le CNRS, etc. Et donc, ces gens-là, depuis presque 40 ans, recueillent les témoignages d'OVNI. C'est une sorte de service public, puisque l'idée, c'est d'essayer d'apporter des explications, d'apaiser éventuellement les craintes, l'anxiété, donc des personnes qui ont déposé ces témoignages avec toute une méthodologie, parce qu'effectivement, chez nous aussi, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des ovnis, en France aussi, je remonte un peu en arrière, Rappelez-vous le film La soupe aux choux ?
Vieux film, là. Là, tu nous ramènes bien, bien en arrière. Avec, évidemment, De Funès et Jacques Villeray.
Donc, qui voient débarquer dans leur campagne, près de leur ferme, donc une soucoupe volante. Au-delà de ce film qui a fait rire des millions de Français, on est dans les années 70. Donc, ce film aussi s'appuie sur de nombreux témoignages qu'il y avait à cette époque-là. Je le raconte très rapidement, mais je me suis rendu il y a quelques années sur un site assez extraordinaire qui se trouve à Rustrel, dans le Vaucluse, qui est l'ancien poste de tir pour les missiles nucléaires La Force Française. Il y en avait deux. À cet endroit, donc j'ai pu discuter avec un historien, il m'a expliqué que c'était un endroit qui était très surveillé par les Français, par l'OTAN, mais par les Soviétiques, par beaucoup de monde en gros. Il y avait tout un tas d'objets donc, qui surveillaient cette zone. Et donc, il y a eu énormément de signalements d'objets, de phénomènes étranges. On a eu, nous aussi, nos vagues de signalements d'OVNI, donc dans les années 70, mais aujourd'hui encore, je rappelle que chaque année, 700 signalements d'OVNI sont rapportés donc, au GEPAN, qui les étudie minutieusement, méthodiquement, et qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, apporte à chaque fois une explication rationnelle et scientifique.
Et c'est ce même GEPAN, alors écrit cette fois sans I, donc seulement G-E-P-A-N, qu'on retrouve au cœur de la série comique OVNI sur Canal+. Très bonne série au demeurant.
Malheureusement, c'est une série que je n'ai pas vue, parce que je n'ai pas Canal+, malheureusement. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, puis j'espère pouvoir la voir un jour. En m'entretenant donc avec le directeur du GEPAN, j'ai pu réaliser que cette série était assez réaliste. En fait, ils ont manifestement utilisé mis en scène des instruments, des appareillages qui sont ou qui ont été utilisés par le GEPAN, notamment des instruments qui permettent de caractériser les formes, les couleurs, les vitesses donc de ces objets célestes non identifiés. Donc c'est une série au-delà de cet aspect comique, évidemment très bonne série que je n'ai encore une fois que j'ai pas vue. Elle s'appuie sur des choses réelles et factuelles.
Donc le directeur du GEPAN avec qui tu t'es entretenu, j'imagine qu'il était assez heureux d'avoir des confrères aussi prestigieux que la NASA s'emparer des signalements d'OVNI.
Tout à fait. La NASA, dans les mois, les années qui viennent, va faire grosso modo ce que fait le GEPAN depuis déjà presque une quarantaine d'années. Bien sûr, la NASA a des moyens que le GEPAN n'a pas, mais bon, l'approche, elle sera à peu près la même, c'est-à-dire une approche scientifique, l'importance évidemment qui est donnée aux données en fait, aux données physiques, à toutes les mesures qui vont permettre de faire des enquêtes, parce qu'effectivement on ne pourra produire aucune conclusion pertinente si on n'a pas des choses factuelles, des données précises à analyser, et aussi donc des entretiens quand, pour certains cas, le GEPAN, et la NASA le fera aussi très probablement, réunir une petite équipe pour aller sur place, mieux comprendre les circonstances, interroger les témoins, ce qu'on appelle des entretiens cognitifs, pour comprendre effectivement qu'est-ce qui a participé de ce sentiment d'étrangeté, est-ce qu'il y avait des conditions particulières qui ont conduit à ces témoignages.
Et pour conclure, j'aimerais qu'on s'arrête justement, puisque parmi les nombreux témoignages recueillis par le GEPAN, il en reste à peu près 3% qui ne sont pas identifiés. Mais parmi ceux qui ont été identifiés et pour lesquels le GEPAN a trouvé une explication très rationnelle, des fois, leur travail d'analyse de recherche amène à des découvertes. Et donc, j'aimerais qu'on s'arrête sur un phénomène assez curieux que le GEPAN a détecté. Est-ce que tu veux bien nous le raconter ?
Oui, tout d'abord, je rappelle que c'est quelque chose d'assez rare. Il est très rare que l'étude d'un phénomène OVNI débouche sur une découverte scientifique qui fasse réellement avancer la science. C'est d'ailleurs pour cette raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, que pour la plupart des scientifiques, c'est pas forcément un sujet qui est scientifiquement très intéressant. Néanmoins, il peut arriver que l'analyse d'un phénomène OVNI enrichisse la connaissance et la littérature scientifique. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc nous sommes à l'été 2020. Ça se passe en région parisienne. Une femme, une artiste, observe le ciel nocturne, Jupiter en particulier, avec ses jumelles. Rapidement, elle voit apparaître sur le disque jovien, donc en observant Jupiter, elle voit apparaître des sortes de nervures mouvantes qui vont, qui viennent. Elle regarde à nouveau Jupiter plusieurs jours durant et à chaque fois, donc ces nervures, ces rayures apparaissent, extrêmement perturbantes. Le GEPAN est contacté. Ils montent une petite...
Investigation, une petite cellule d'investigation.
Tout à fait, un petit groupe d'enquêteurs qui, au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, a trouvé une réponse, et en l'occurrence, une réponse tout à fait nouvelle par rapport à ce qui était connu sur les phénomènes OVNI. Qu'est-ce qu'ils ont compris ? Tout d'abord, c'est l'appareil, l'instrument, les jumelles. C'est des jumelles très anciennes qui avaient été données par le grand-père et l'arrière-grand-père, je ne sais plus, donc à la personne qui avait cette observation, et des jumelles dont l'un des oculaires était totalement déréglé, défocalisé. Et cet oculaire a produit une sorte d'illumination du fond de l'œil, donc de l'observatrice en l'occurrence, et qui a produit certains effets d'ombre sur certaines parties qui se trouvent au fond de l'œil. notamment donc des vaisseaux sanguins. Donc ces vaisseaux sanguins, donc on produit du coup ces formes, ces structures qui se sont superposées donc sur le disque jovien et qui ont donné cette apparence de quelque chose de très très étrange, donc qui bougeait à la surface de Jupiter.
Et qu'on peut retrouver dans le numéro 925 de Science et Avenir. Il y a une petite capture d'écran qui est là encore, je trouve, assez évocatrice.
Absolument.
Bon, je ne sais pas si on aura trouvé un ovni entre le moment où on enregistre cet épisode et au moment où vous l'écouterez, mais en tout cas, voilà, moi je tiens à te remercier Franck et à vous donner rendez-vous, comme d'habitude, dans 10 jours pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.